Bonjour et bienvenue dans l'hebdo des jeunes reporters pour cette semaine du vendredi 8 au jeudi 14 janvier. Commençons avec Facebook et Twitter qui bannissent Donald Trump à la suite de l'invasion du Capitole. Ces mesures encouragent YouTube à changer sa modération. En effet, les vidéos de désinformation sont désormais bannies de la plateforme. Le président américain annonce également qu'il n'assistera pas à la prestation de serment de Joe Biden.
Ce vendredi 8 janvier, Tokyo est condamné par la Corée du Sud à dédommager 12 femmes coréennes, sur environ 200 000 femmes au total, qui avaient été réduites à être des femmes de réconfort, donc c'est-à-dire des prostituées, durant la Seconde Guerre mondiale pour des soldats japonais. C'est le premier dossier civil présenté à la justice en Corée du Sud contre le Japon, qui se voit chargé de payer 74 000 euros aux femmes. Le tribunal coréen affirme « Cela relevait d'un acte illégal contre l'humanité », et le défenseur a l'obligation de compenser les victimes pour le préjudice mental. Néanmoins, le Japon nie le jugement et le Premier ministre nippon annonce que la question des femmes de réconfort a déjà été résolue complètement et définitivement et notre pays n'acceptera jamais ce jugement.
Au Mali, 6 soldats français sont blessés par un véhicule kamikaze. Ils sont tous évacués à l'hôpital de Gao et 3 seront rapatriés parmi les 6. Il s'agit de la 3e attaque depuis la fin décembre.
Petit point récapitulatif sur le coronavirus dans le monde. La Suède, qui jusqu'alors n'était pas très stricte sur ses restrictions, a instauré sa capacité à fermer les restaurants et commerces. Et la Chine, quant à elle, confine 18 millions d'habitants dans une province proche de Pékin.
Nous en parlions la semaine dernière, le Boeing 737 pose problème. Ce samedi 9, un appareil de Sriwijaya Airlines s'est crashé en mer en Indonésie. 62 personnes étaient à bord de l'appareil censé rallier Jakarta à Pontianak. 4 minutes après son décollage, l'avion s'est endommagé en mer et a disparu du radar. Les débris sont retrouvés le lendemain.
Ce samedi 9 janvier, la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, annonce que le taux de signalement de violences conjugales a augmenté de 60% lors du deuxième confinement en France, comparé à une hausse de 40% lors du premier confinement, qui s'expliquerait selon elle par un niveau de tension extrêmement fort depuis cet automne, avec moins de soupapes de décompression pour les gens qui devraient rester chez eux.
La Commission européenne appelle les États à intensifier leurs efforts pour améliorer la qualité de l'air. Les mesures approuvées ayant pour objectif de réduire le nombre de décès prématurés de 55% d'ici à 2030 ne sont pas suivies par les signataires du contrat.
L'Espagne est victime ce samedi d'une tempête de neige historique, dite la pire depuis 50 ans, et qui a fait 3 morts. La tempête a semé le chaos dans le pays, notamment dans la capitale, en paralysant une partie des infrastructures. On compte près de 20 000 km sur 650 routes et ponts qui ont été touchés par des problèmes de circulation.
Ce dimanche 10, les Kirghizes et les Kazakhs ont eu les résultats d'élections importantes. Le populiste Sadir Japarov est élu à la tête du Kirghizistan, tandis qu'au Kazakhstan, le parti au pouvoir remporte haut la main les législatives. L'arrivée de M. Japarov au pouvoir fait craindre la mise en place d'une dictature.
Ce dimanche 10 janvier, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande est victime d'un piratage informatique dont l'auteur reste inconnu. Le gouverneur de la Banque centrale, Adrian Orr, annonce « Nous essayons de déterminer la nature et l'étendue des informations à laquelle ils ont pu avoir accès. Elles peuvent comprendre des informations commerciales et personnelles sensibles. Pour l'instant, le système informatique est déconnecté. »
Parlons un peu sport. Julia Simon et Emilien Jacquelin sont sacrés champions du monde de biathlon mixte en Allemagne, tandis que Clément Venturi encaisse son 4e titre de champion de France de cyclocross.
Les étudiants sont décidément prêts à tout pour ne pas passer leurs examens, comme le témoigne l'incendie volontaire qui a touché un bâtiment de l'Université de Nantes dans la nuit du dimanche 10 janvier au lundi 11. Il n'y a aucune victime, mais le bâtiment demeure inutilisable pour une durée indéterminée.
Ce lundi 2 janvier, une ambiance glaciale règne au Kremlin. Poutine convoque les chefs d'État arméniens et azéris afin d'ouvrir le dialogue entre les deux nations opposées il y a peu dans un conflit territorial ayant fait 6000 morts. Par son action, Poutine réaffirme son emprise sur la région et entend protéger les relations de bon voisinage qui lient ces pays.
Et Trump n'est pas le seul politicien à se voir banni des réseaux sociaux. Ce lundi, à l'approche des élections présidentielles en Ouganda, Facebook ferme les comptes des responsables gouvernementaux accusés d'interférence dans le débat public. Cette élection opposera Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 35 ans et qui compte se lancer dans son 6e mandat, à Bobi Wine, 38 ans.
Improbable, Mike Pompeo déclare que Cuba fait partie de la liste des États soutenant le terrorisme parce que, je cite, « il aurait apporté son soutien de manière répétée à des actes de terrorisme international en donnant refuge à des terrorismes ». Le chef d'État cubain l'accuse d'opportunisme politique et condamne la déclaration qui opère à 9 jours de la fin du mandat Trump-Pompeo.
Ce lundi 11 janvier, lors du 8e congrès du Parti du Travail, le dirigeant Kim Jong-un a qualifié les États-Unis du plus grand ennemi de la République populaire démocratique de Corée. Il déclare « Peu importe qui est au pouvoir, la véritable nature des États-Unis et de leur politique vis-à-vis de la RPDC ne change jamais ». Kim Jong-un annonce également des recherches en vue de la construction d'un sous-marin nucléaire et un renforcement des capacités nucléaires du pays.
Malgré sa colère de la veille, Kim Jong-un a su se consoler ce mardi 12 avec sa promotion à l'unanimité au poste de secrétaire général du Parti du Travail. Bon, il avait déjà les pleins pouvoirs, mais il est désormais au même niveau que son père et son grand-père.
Les judokates Clarisse Agbenenou et Amandine Bouchard gagnent toutes les deux la médaille d'or dans leurs catégories respectives lors des Masters de judo à Doha ce mardi, ce qui leur permet de remporter de nombreux points, exactement 1800 points à la World Ranking List, en vue des Jeux Olympiques de 2021.
Alain Finkielkraut est renvoyé par LCI pour avoir tenté de relativiser, le 11 janvier, les actes de pédophilie de M. Duhamel. Selon le philosophe, l'âge du jeune homme, 14 ans, amoindrirait ses faits condamnables et inhumains.
Pour la première fois depuis 70 ans, une femme subit la peine de mort aux États-Unis. En 2004, Lisa Montgomery, 52 ans, assassine une femme de 23 ans enceinte de 8 mois et prend son bébé pour le faire passer comme le sien auprès de son mari. En 2008, elle est condamnée à la peine capitale et est exécutée donc ce mardi 12 janvier.
Ce mercredi 13, Israël mène des frappes meurtrières en Syrie et fait 57 morts parmi les militaires pro-régime. Il s'agit du plus lourd bilan depuis 2011.
Donald Trump est le premier président américain à faire deux fois l'objet d'une procédure d'investiture. Cette deuxième fois, c'est pour incitation à l'insurrection pour l'invasion du Capitole ce 6 janvier. L'aboutissement de la procédure pourrait potentiellement permettre à l'empêcher de se représenter lors d'une prochaine élection.
Grand moment pour le sport français, Teddy Riner fait son grand retour sur les tatamis à Doha en remportant le Master. Le double champion olympique et décuple champion du monde n'avait pas concouru depuis février 2020 après avoir essuyé deux défaites mettant un terme à sa série de 154 victoires. Il est désormais aiguisé et prêt à aller chercher son troisième titre olympique à Tokyo.
Andrew Gates, un ancien entraîneur de tennis, a été jugé coupable ce mercredi 13 janvier de viol sur quatre jeunes filles âgées de 12 à 17 ans et donc condamné à 18 ans de prison. Le coach sportif reconnaît. Les déclarations extrêmement bouleversantes des victimes m'ont fait sentir à juste titre comme une vraie pourriture.
Alexei Navalny, principal opposant à Poutine, annonce jeudi qu'il retournera sur le sol russe dimanche. Pour rappel, il avait été hospitalisé pour empoisonnement en 2020 à Berlin.
Et ce jeudi 14 janvier, nous souhaitons un joyeux anniversaire au site Wikipédia qui fête ses 20 ans et qui a sauvé bien de fois des élèves et étudiants.
La disparition de Merlina, un corbeau britannique, inquiète. En effet, il est cru par certains que si le nombre de corbeaux dans la tour de Londres tombe en dessous de 6, l'Empire et la couronne d'Angleterre chutent. Il ne reste désormais plus que 7 corbeaux dans la tombe, dans la tour, sont vos présages.
Enfin, pour finir la semaine, Leifodé Traoué, un jeune Ghanéen apprenti boulanger à Besançon, avait été renvoyé car ses documents d'identité n'étaient pas jugés comme authentiques. Était donc visé par une obligation de quitter le territoire français. Son patron, Stéphane Ravaclet, s'est alors lancé dans une grève de la faim il y a 10 jours pour permettre au jeune homme de rester en France. Et une pétition lancée sur Internet a récolté plus de 220 000 signatures. Leï Traoué a appris ce jeudi 14 janvier qu'il allait pouvoir rester en France et travailler pour M. Ravaclet, qui a affirmé qu'il reprendrait une alimentation normale. C'était Zachary Pénès et Marie Hart pour la radio des jeunes reporters. À la semaine prochaine.